Un homme plongé dans la boue n'a pas besoin qu'on vienne lui faire des discours sur la saleté de la boue. Il a plutôt besoin d'une main compatissante à laquelle il peut s'accrocher pour sortir de la boue. Nous sommes cette main compatissante.
Aujourd'hui, mon souci est de fixer votre attention sur trois vérités ou quatre vérités ou même cinq vérités dans le texte que nous allons lire. Et je vous invite alors à tourner vos regards avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du 12e verset. La Bible dit ceci que « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tous les corps étaient elle, où serait lui? S'il était oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner l'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Si un membre souffre, tous les membres compatissent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres sont honorés avec lui, se réjouissent avec lui. Nous avons dans ce texte que nous venons de lire une formidable métaphore dont l'apôtre Paul se sert pour nous enseigner un certain nombre de vérités que nous devons savoir afin de préserver le climat de l'unité fraternelle au sein de l'Église. Paul utilise ici une métaphore, c'est-à-dire une image, une comparaison. Il fait la comparaison entre le corps humain et l'Église du Dieu vivant, dans le but de nous enseigner par cette méthode très simple plusieurs vérités qui peuvent nous aider à marcher dans l'unité au sein de l'Église locale. Au verset 12, l'apôtre Paul nous fait comprendre que le corps est un, mais il a plusieurs membres. Il nous fait comprendre que le corps est un, mais il est formé de plusieurs organes. Ce qui est vrai parce que chacun de nous a un corps. Et ce corps est appelé aujourd'hui Jean-Marie, ou il est appelé Gloire, ou il est appelé Christian, mais c'est un seul corps. Or, en fait, lorsque vous observez ce corps, vous découvrez, et cet objectif, c'est vrai, que ce corps est composé de plusieurs membres, de plusieurs organes, que vous connaissez et que vous ne connaissez même pas. Lorsque vous regardez le corps, vous allez voir la tête, vous allez voir les yeux, vous allez voir la bouche, vous allez voir les pieds. Et à l'intérieur, les anatomistes nous ont dit que nous avons le cœur, nous avons le foie, nous avons les intestins. Même si nous ne les voyons pas, mais ça existe là, c'est aussi vrai que la main que nous voyons. Mais ces éléments qui sont nombreux et divers forment pourtant un seul corps. Un seul corps qui s'appelle Rose. Mais lorsque vous regardez Rose, vous allez voir ces éléments distincts dans Rose. Vous allez voir les cheveux. Vous allez voir la tête. Vous allez voir les yeux. C'est qu'il y a ici une chimie que Dieu a opérée dans le corps. Et c'est cette chimie que l'apôtre Paul cherche d'abord à nous faire comprendre. Il continue du verset 15 au verset 21. Il nous fait comprendre que ces membres sont intimement liés les uns aux autres et vivent dans un parfait climat de collaboration. Ce qui est vrai, lorsque vous levez votre bras, eh bien, vous allez distinguer les doigts. Mais vous verrez comment ces doigts sont attachés de façon extraordinaire à la main. Et vous regardez comment la main est attachée au bras, mais vous savez que la main se limite ici. Et le bras commence là-bas, l'avant-bras commence là-bas, le bras de l'autre côté. C'est qu'il y a une unité, une connexion intime entre les différents membres du corps. Et il y a une grande coopération entre ces membres. C'est cette unité des différents membres et cette coopération des différents membres qui permettent que votre corps puisse être en harmonie et puisse être en bonne santé. Si ces membres ne sont pas unis entre eux, si par exemple le bras est coupé et laissé au frigo, le corps ne sera plus en harmonie, on va vous appeler manchon. Si peut-être l'œil est arraché et jeté, on va vous appeler borgne. On ne vous appellera plus mimosa, parce que on va dire à mimosa la borgne qui a perdu l'œil. C'est quoi? C'est que votre corps a perdu quelque chose dans son harmonie. Donc voilà pourquoi la deuxième chose que l'apôtre Paul nous fait comprendre, c'est que il est nécessaire que tous les membres du corps, et c'est vrai, c'est très vrai, que tous les membres du corps vivent dans une intime connexion et qu'ils coopèrent entre eux pour donner de l'énergie et de l'harmonie au corps. Si le foie ne coopère pas avec le cerveau, et si les pieds ne coopèrent pas avec les mains, il sera difficile qu'on puisse vous dire que vous êtes un homme normal. C'est grâce à ces liens et à cette coopération que les membres et les organes, malgré leur diversité, peuvent former un joli corps qu'on peut appeler aujourd'hui Papy Kadjo. C'est grâce à cette coopération et à cette connexion que ces membres forment un joli corps qui porte aujourd'hui un nom. Donc, c'est la deuxième chose et la chose importante que nous devons comprendre, que l'apôtre Paul nous fait comprendre dans ce joli texte que nous venons de lire. Et à partir du verset 22 jusqu'au verset 25, Paul nous fait comprendre que dans le corps humain, chaque membre est utile et a droit à l'honneur. Chaque membre est utile. Pourquoi chaque membre est utile? Chaque membre est utile d'abord parce que c'est Dieu qui l'a placé dans le corps. C'est Dieu qui a décidé de son propre chef de placer la main là où la main est. Et c'est Dieu qui a confié à la main un travail précis, une fonction précise. Lorsque vous mangez, La main a un travail à faire. C'est de prendre la nourriture et de donner à la bouche. Point, un trait. Son travail se limite là. Et la main doit rester fidèle dans l'exercice de ce travail. Et lorsque vous avez besoin, par exemple, d'aller au métro, vous n'allez pas vous servir de votre dos. C'est en ce moment-là que vous allez comprendre que j'ai besoin d'utiliser mes pieds, j'ai besoin d'utiliser mes jambes. Donc, c'est ça ce travail que ces membres font, qui leur confère leur utilité. Quelque chose qui est utile, c'est quelque chose qui contribue à l'harmonie ou au progrès de l'ensemble de tous les membres ou de l'ensemble du corps. Et la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous fait comprendre que chaque membre et chaque organe de notre corps est très, 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 très utile. Amen. Et en tant que chaque membre et chaque organe du corps est très utile, chaque membre et chaque organe du corps a besoin d'être honoré. C'est ce que nous avons dit. Quand la Bible dit que les yeux ne peuvent pas dire que parce que je ne suis pas oui, alors je ne suis pas du corps. Non. Les yeux n'ont pas droit de faire la grève. Les yeux n'ont pas droit de s'isoler. Mais les yeux doivent comprendre que moi, je suis très utile dans ce corps. Mais j'ai une fonction précise, un travail précis que je fais. Quel est ce travail? C'est de voir. Et ce travail de voir me permet de donner à l'ensemble du corps toute son harmonie. Mais je laisse à lui le travail d'entendre. S'il y a un bruit, c'est lui qui entend et vous allez observer. Dès qu'il y a un bruit, l'oreille entend, vous tournez la tête tourne et les yeux vont regarder. C'est ça, cette harmonie, cette chimie qui existe entre les différents membres du corps. Et cela nous amène à comprendre que à cause de leur utilité, chaque membre a droit d'être honoré. Le nez ne peut pas dire aux yeux que parce que vous ne sentez pas, vous n'êtes pas important. Non. Ici, il y a un esprit de complémentarité qui se dégage dans ce texte. Suivez-moi bien, frères et sœurs bien-aimés. Parce que lorsque nous rentrons dans les choses que nous connaissons, chacun a un corps, il sait comment ses membres et ses organes sont en train de coopérer pour lui donner une harmonie acceptable et une bonne santé. Donc, chaque membre a droit d'être honoré, d'être respecté. C'est ce que nous lisons à partir du verset 22. Quand l'apôtre Paul dit que les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Lorsque vous prenez le bras, vous le comparez par exemple au foie ou au rein, vous allez découvrir que le bras est plus fort parce que dans le bras il y a des os. Mais dans le poumon il n'y a pas d'os. Le poumon est faible. Mais observez bien que le poumon est tellement nécessaire que lorsque on l'enlève du corps, vous ne vivez plus. Mais le bras, il est fort, n'est-ce pas? Il vous aide à boxer quelqu'un. Mais on peut couper le bras, vous allez continuer à vivre. Vous allez continuer à exister. Est-ce que à cause de cela, le bras a le pouvoir de minimiser le cœur parce que le cœur est faible? Non. Le cœur a droit à l'honneur, même s'il est faible. Paul continue et dit au verset 23, et que les membres que nous estimons le moins honorables, nous les entourons d'un plus grand soin. Et ceux qui sont le moins décents reçoivent le plus d'honneur encore. Et ceux qui sont très décents, ils n'ont pas besoin d'honneur. C'est-à-dire on crée un équilibre entre les choses. Juste pour nous faire comprendre que dans ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, en prenant l'exemple du corps humain, il nous révèle que chaque membre du corps a droit d'être respecté, a droit d'être honoré, qui que vous soyez. Raison pour laquelle on va vous dire à l'hôpital, mangez ceci pour alimenter votre foie, mangez ceci pour garder vos reins en santé, mangez ceci pour garder vos jambes en forme, allez faire la gym pour que le muscle puisse être gardé en forme. Pourquoi? Parce que il faut que chaque partie du corps puisse être en forme pour que le corps lui-même soit en forme. Et du verset 25 au verset 26, l'apôtre Paul nous fait comprendre que les membres du corps ont le devoir de prendre soin les uns des autres. J'ai oublié de vous apporter une petite vidéo qui m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup à la fois surpris, mais fait réfléchir, d'une petite madame qui a perdu les deux bras. Mais cette petite madame a développé d'autres réflexes formidables. Avec ses pieds, la petite madame est capable de conduire la voiture. Avec les pieds, la petite madame s'assoit, elle monte la jambe, elle se maquille très, 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 très bien. Donc, elle tient la fourchette avec les pieds, elle mange très, 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 très bien. Elle tape à l'ordinateur avec les pieds, elle fait tout, 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 tout. Si vous regardez comment notre corps réagit lorsqu'un membre perd une certaine fonctionnalité, frères et sœurs, vous allez comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner en ce qui concerne l'Église. Eh bien, au verset 12, la deuxième partie, Paul dit que « Ainsi en est-il de Christ ?» Après avoir fait la description du corps, il dit « Ainsi en est-il de Christ ?» C'est-à-dire « Ainsi en est-il de l'Église ?» Donc, par cette métaphore, l'Esprit de Dieu veut nous enseigner cinq vérités que nous devons tous savoir afin que nous puissions s'aimer dans notre Église un parfait climat d'unité fraternelle, un parfait climat de coopération. Première vérité, c'est que l'Église est composée de plusieurs membres. Vrai ou faux? Oui. C'est indiscutable. L'Église est composée de plusieurs membres. Donc, l'Église de Dieu ne peut pas être prise en otage par un seul individu ou par un groupe d'individus. L'Église de Dieu telle que nous sommes là, pour qu'elle soit appelée Église, elle est formée de Jean-Vien Kunda, de Hubert Fwamba, de Guy Posé, de Zino, elle est formée de Dada Bakombo, elle est formée donc tous les membres. Qu'est-ce que je veux dire par là, frère? Je veux faire comprendre que l'Église, c'est vous.
Amen.
Donc, ne regardez pas à côté, ne vous mettez pas en retrait pour dire que non, dans cette Église, il n'y a que Papa Alf. Non, 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 frère. L'Église, c'est vous. L'Église est composée de plusieurs membres. Peu importe votre niveau de connaissance, peu importe votre sexe, peu importe votre faiblesse ou votre force, vous êtes membre à part entière de l'Église de Dieu. Et vous devez vous comporter comme un membre à part entière de l'Église de Dieu. Ne vous dites pas que non, cette Église-là, c'est pour ceci, c'est pour cela. C'est la première chose que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre. Mais c'est une chose importante. Parce qu'à partir du moment où une personne se met en retrait et dit que non, non, cette Église-là, c'est l'Église de Suzanne. Cette église-là, c'est l'église de Badi, comme les gens ont l'habitude de le dire. Dès que quelqu'un développe une telle philosophie, il lui sera difficile de travailler à la croissance de l'église. Je voudrais vous faire comprendre, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque on parle de l'église, même lorsque aujourd'hui on parle de l'église, l'arche de Dieu, c'est d'abord vous, tel que vous êtes là. Et si vous voulez que je puisse être précis, c'est toi, comme tu es assis sur le banc là. L'arche de Dieu, c'est toi. Tu es dans l'arche de Dieu, ce que l'œil est dans le corps. Et si on t'enlève, ou si toi tu t'enlèves, c'est que tu laisses l'arche de Dieu borner. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Amen.
C'est ça la pensée biblique. C'est ça la vérité que Dieu nous fait comprendre à travers cette métaphore du corps. La toute première vérité. Et la deuxième vérité, c'est que ces membres que vous êtes, que nous sommes, doivent être intimement liés les uns aux autres et doivent entretenir entre eux un climat de coopération sans faille. Qu'est-ce que je dis? Comme les membres du corps, le bras est bien lié à l'avant-bras. Le pied est bien lié à la jambe pour conférait une harmonie acceptable au corps. Dans l'Église de Dieu, nous avons la responsabilité et le devoir, nous tous les membres du corps, de nous connecter les uns aux autres. Sans cette connexion, l'Église est morcelée. Et lorsque l'Église est morcelée, c'est qu'il est difficile que nous puissions impacter le monde. Il est difficile même que Dieu répande ses bénédictions sur nous. Et cette connexion entre les membres, c'est la responsabilité de chacun de nous. Ne vous isolez pas, mon frère. Ça ne peut pas exister. Si vous vous isolez, un, vous vous affaiblissez, et deux, vous affaiblissez le reste du corps. J'ai déjà donné un exemple, parce que c'est un texte sur lequel je suis déjà intervenu à plusieurs reprises. J'ai déjà donné ici un exemple de Cassius Clay, qui était un boxeur qui a cogné Foreman à Kinshasa en 1974. Hein? Cassius Clay, Mohamed Ali. Eh bien, son bras libéré de coups comme une dactylo là. Mais imaginez une fois qu'on coupe le bras de Mohamed Ali et on le garde vivant au frigo. Est-ce qu'à partir du frigo, ce bras peut boxer George Foreman? Impossible, frère. La force de ce bras lui vient de sa connexion avec le reste du corps. Amen. Même chose, vous, vous pouvez avoir un ministère. Et j'ai dit même que vous avez un ministère. Frère, lorsque vous vous isolez, vous restez chez vous à la maison. Vous pouvez rester là-bas 50 ans. Vous ne ferez rien avec votre ministère. Le ministère est donné pour le corps, pour l'Église. C'est lorsque vous êtes dans l'Église que ce ministère sera semblable au bras de Cassius Clay pour libérer le coup. Est-ce que quelqu'un me comprend bien?
Amen.
Frères et sœurs, nous avons la responsabilité de nous connecter. C'est difficile parfois qu'on voit aujourd'hui à l'église. Lorsque quelqu'un arrive, il aime s'isoler. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai demandé au protocole de déplacer tout le monde selon leur ordre d'arrivée. Qu'est-ce qui va vous pousser, par exemple, qu'on vous place à côté des gens, vous dites que non, moi je ne veux pas m'asseoir là-bas. Si vous dites que je ne veux pas m'asseoir là-bas, c'est que vous ne voulez pas vous connecter à Zino. Vous ne causez pas du tort à Zino, mais vous causez du tort à toute l'église. Et vous vous causez du tort à vous-même, frère. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions être intimement liés. Nous puissions être intimement connectés les uns des autres pour que nous puissions devenir forts et que nous puissions coopérer entre nous. Comment coopérer? La coopération ici nous renvoie à la dépendance. Je suis né, mon travail c'est de sentir l'odeur. Mais j'ai besoin de la bouche pour que la bouche puisse donner la nourriture au ventre. Vous vous rappelez ma fameuse anecdote que je vous ai racontée ici une fois que les membres du corps ont tenu un conclave contre le ventre. Et ils ont soulevé des questions pertinentes. Des questions étaient pertinentes. La bouche a dit au même, mais qu'est-ce que tu penses là? Chaque jour, toi tu prends seulement la nourriture, tu me donnes. Mais moi je donne au ventre. Et le ventre, qu'est-ce qu'il lui fait? Et le pied dit, oui, mais en fait vous avez raison. Chaque jour, moi je dois me lever, me promener pour acheter la nourriture. Alors les bras disent, écoutez, arrêtez cette colonisation-là. Il faut que les ventres fassent aussi quelque chose. Sinon, nous n'allons pas prendre ventre. On dit, ah ben, moi, je n'ai pas de problème. Asseyons-nous. Alors, tous les membres se sont assis. C'est la grève de la faim. Le ventre n'a rien mangé. Un jour, deux jours, trois jours, les bras commencent à s'allonger. Et la bouche n'est plus capable de parler. Vous savez que quand quelqu'un a faim, sa bouche devient disciplinée. Je vous dis la vérité, frère. Quand quelqu'un a vraiment faim là, il ne va pas parler. Vous pouvez lui raconter tous les discours. Il a envie de parler, mais il ne peut pas parler. Et il y a un proverbe qui dit même que ventre affamé n'a point d'oreille. C'est qu'il n'entend même pas tout ce que vous lui racontez là. Alors, lorsque les membres du corps ont fait leur grève, le ventre a attendu. Deux jours, trois jours, même les jambes n'étaient pas capables de se tenir debout pour marcher. Alors, ils se sont ravisés. ils ont compris que non. Nous devons donner la nourriture au ventre pour que nous tous, nous puissions avoir la force.
Amen.
Et en rampant, la main est allée prendre la nourriture et l'a donnée à la bouche a libéré au ventre. Dès que le ventre a réussi, eh bien, les jambes ont commencé à bouger. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'interdépendance entre tous les membres du corps pour conférer au corps son harmonie et sa santé. Il en est de même de l'Église, mon frère, ma soeur. Moi, j'ai besoin de vous. Vous, vous avez besoin de votre frère, de votre soeur. Moi, je ne sais pas chanter. J'ai besoin de Ornella pour chanter. Ornella a besoin peut-être de papy pour prier. Papy a besoin peut-être de Jean-Claude pour faire les finances. C'est ainsi que nous devenons forts. Parce que chacun de nous a été placé à l'Église par Dieu lui-même et selon sa propre volonté, avec une mission fixe, une tâche précise à accomplir au milieu de nous. Et il faut que chaque membre du corps comprenne que nous sommes interdépendants. En comprenant que nous sommes interdépendants, ça va vous guérir. Vous guérir de quoi? D'abord, ça va briser en vous l'orgueil de rejeter les autres, de dire que tel n'est pas nécessaire. Combien de fois n'avons-nous pas entendu dans l'église, lui là, en quoi il est nécessaire? Il peut partir, ça ne fait absolument rien. Non! Il est nécessaire faire. C'est l'orgueil qui vous fait dire que lui n'est pas nécessaire. C'est ainsi que dans certains cas, il y a des choses que Dieu ne va pas faire par vous, mais il va le faire par lui pour que vous puissiez comprendre que nous sommes interdépendants. Église, comprenez que chacun de nous est utile. Église, comprenons que nous sommes interdépendants et que cette interdépendance vous amène à ne pas vous isoler. Parce que c'est ça le deuxième danger. Si quelqu'un ne comprend pas que nous sommes interdépendants, il va se dire que non. Si ce n'était pas moi, cette église n'irait jamais de l'avant. Si ce n'était pas moi, cette église n'allait pas faire grand-chose. Non, frère, vous pouvez quitter. Dieu va se glorifier. Mais comprenez tout simplement que Dieu vous a utilisé comme un instrument pour accomplir une certaine parcelle des choses qui doivent contribuer à l'harmonie et à la santé du corps. Donc, la deuxième vérité, c'est très important que chacun de nous comprenne que nous devons être liés intimement au milieu de nous et nous devons coopérer, reconnaître notre interdépendance au milieu de nous. Ça va vous pousser à honorer le frère, le sœur à côté de vous. Je vais y revenir. Alors, à la différence des membres du corps qui sont attachés de façon mystérieuse par Dieu, dans l'Église, c'est l'amour qui est le lien qui nous permet de nous connecter les uns aux autres. À plusieurs reprises dans la Bible, à plusieurs reprises, je dis bien à plusieurs reprises, la parole de Dieu nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Pourquoi? Parce que sans amour, sans passer par l'amour, il est impossible que nous puissions nous connecter les uns les autres. Ce qui fait que quand je n'aime pas Pascal, ça nous le vivons dans tous les jours. Peut-être vous allez vous retrouver pendant que je parle. Quand je n'aime pas Pascal, lorsque j'entre dans l'église, Pascal est à la porte, j'improvise d'aller aux toilettes. Mais le vrai problème, ce n'est pas que j'ai envie d'aller aux toilettes. Le vrai problème, c'est que je n'aime pas Pascal, je n'aime pas voir sa face. Or, en agissant ainsi, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de planter l'esprit de division. Et en plantant l'esprit de division, vous vous fragilisez vous-même et vous fragilisez toute l'Église, toute la communauté. L'apôtre Paul, au chapitre suivant, au chapitre 13, nous définit en extension. Vous savez, en logique, on parle de la définition en compréhension et de la définition en extension. La définition en extension, on cite les éléments qui constituent la définition de l'objet que vous voulez définir. Mais en compréhension, on donne une compréhension globale. Mais Paul, au chapitre 13 de la première épître de Paul aux Corinthiens, il nous donne une vraie définition que j'aime de l'amour. Il nous dit au verset 4 que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Cet amour-là qui doit régner au milieu de nous pour que nous puissions nous connecter les uns aux autres. Qu'est-ce que la Bible en dit? Il est patient. En d'autres termes, celui qui aime, celui qui a de l'amour pour son frère, il doit être patient envers lui. C'est ça ce qu'on dit. Pourquoi il doit être patient envers lui? Nous le disons ici tous les jours, le cœur de l'homme est compliqué, frère. Chaque homme que vous voyez sur la terre, là, il a ses faiblesses, il a ses forces. Même ceux qui sont mariés, hier ils sont dit, chérie, oh je t'aime, quand je ne te vois pas, je ne dors pas. Mais la nuit, il dort très bien tranquillement. Le lendemain, il va se lever et dire, depuis que je suis dans ce mariage, qu'est-ce que toi tu fais pour moi? Mais dis, hier tu as dit que je t'aime, aujourd'hui tu dis que depuis que je suis dans ce mariage, qu'est-ce que tu fais pour moi? Et si tu te fâches à cause de ça, à la porte. Tu prends une deuxième. Non. Celle-là, elle était méchante. Moi, je suis chérie, je t'aime. Chaque soir, il vient te couper les ongles et puis il vient tout ranger. On dit que tout va bien. Mais après deux jours, si je savais, je n'allais même pas t'épouser. Est-ce que toi, tu es comme l'autre, comme l'autre, comme l'autre? Ah, c'est comme ça? Toi aussi, à la porte. Finalement, avant de mourir, tu auras mis à la porte 50 et tu en auras épousé 51. Non. Vous comprenez? Or, le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est un peu de patience. C'est-à-dire, on observe et les choses vont venir au calme. C'est ça la marque de l'amour. L'amour est plein de bonté. C'est-à-dire quoi? L'homme ou quelqu'un qui aime doit être bon envers son frère. Doit être capable à faire du bien envers son frère. S'il est question de donner un cadeau. Le cadeau, n'est-ce pas? Ça permet aux gens de se connecter. Peu importe sa valeur. Ah, bonjour, papa Jean-Claude. Voilà, est-ce qu'on peut prendre un café? Je me rappelle, lorsque nous avons lancé il y a une année, l'opération de fraternisation pour que nous puissions fraterniser ensemble, manger ensemble, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas compris ça. On va revenir encore sur ça cette année. Mais l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'était de nous connecter. Nous devons nous connecter. Dépenser 5 dollars pour aller prendre un café avec peut-être mon frère Ibarra, ce n'est pas la fin du monde. Mais ce temps-là que nous allons passer ensemble, c'est un temps extrêmement béni. Nous devons apprendre, quand nous avons l'amour, à faire du bien les uns aux autres. Nous devons vraiment être bons, être capables de faire du bien. Paul continue et dit que l'amour n'envie pas. Lorsque l'envie est plantée au sein de l'église, n'est-ce pas? C'est alors que Paul dit au chapitre 12, l'oreille va dire, si moi je ne suis pas l'œil, pourquoi moi je ne vois pas? Alors, je ne suis pas du corps. Le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est que l'oreille est en train d'envier l'œil. Parce que l'oreille n'a pas ce que l'œil a. Non, frère. N'enviez pas votre frère, n'enviez pas votre soeur. Quand vous avez de l'amour, n'est-ce pas? Vous devez plutôt vous réjouir de ce que votre frère, comme votre frère va se réjouir de ce que vous êtes. Parce que tous, nous sommes utiles. Tous, nous sommes importants. Et Paul continue et dit, l'amour ne se vante pas, il ne semble pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la bonté et de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Bref, l'amour qui doit nous servir des liens de connexion là, voilà les différents éléments qui le définissent. Parfois, lorsque on manque de l'amour dans l'église, les gens commencent à se comporter comme s'ils étaient entrés dans un champ qui ne leur appartient pas. Vous savez que si vous entrez dans un champ qui n'est pas à toi, tout ce qui bouge, tu regardes, est-ce que c'est le propriétaire qui arrive? Et lorsque quelqu'un au sein de l'église se comporte comme s'il était dans un champ qui ne lui appartient pas, tout ce qui bouge, il va soupçonner. Tu sais pourquoi il a fait ceci? C'est parce que j'étais là. Tu sais pourquoi il parlait beaucoup? C'est parce que ça, frère, c'est empoisonné. La vie ensemble et c'est briser la connexion pour l'unité. La connexion, c'est très très important, mon frère, ma soeur. C'est l'amour qui nous permet de nous mettre ensemble. Aimons-nous les uns les autres. Nous ne perdons rien en nous aimant. Par contre, en nous aimant, nous faisons preuve que nous sommes les enfants de Dieu. Lorsque vous lisez les expressions les uns les autres, il y a encore beaucoup d'autres détails que la Bible nous donne qui peuvent nous permettre d'exprimer notre amour. Vous trouverez par exemple, exhortez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. L'amour s'exprime même dans la simple salutation. Dans la simple salutation. Je vois mon frère passer avec joie. Bonjour papa Jean-Marie, ça va bien? Vous ne savez pas comment je lui ai fait du bien. Vous ne savez pas comment il va se sentir être mon frère. Parfois, on peut finir le culte. Vous allez toujours chercher les frères que vous connaissez pour saluer. C'est une bonne chose. Mais ceux que vous ne connaissez pas, ils vont se sentir toujours isolés. Comment alors la connexion va s'établir pour que nous puissions devenir forts? Nous devons nous réveiller en tant que peuple de Dieu. Troisième vérité, chaque membre est utile et il est appelé à contribuer à l'harmonie et à la croissance de l'Église. C'est ce que le corps nous a appris. Quand il nous apprend que le cœur est utile, même s'il est faible. De la même façon, lorsque vous regardez votre frère, qui qu'il soit, dites-vous, maman, que Dieu vous bénisse. Que le Dieu qui vous a envoyé ici vous bénisse. Vous êtes très utile pour cette Église. À un certain niveau, chacun de nous est utile. Amen, peuple de Dieu.
Amen.
Lorsque on doit comprendre la métaphore de l'apôtre Paul, on comprend aussi que tous les éléments ont la responsabilité de prendre soin les uns des autres. Et Paul commente en disant, vous devez être affecté par la douleur de votre voisin, tout comme vous devez vous réjouir lorsque votre voisin est dans la joie. Et lorsque nous rentrons dans le syndrome de la fausse mère, cette maman a perdu son enfant la nuit. Et elle a échangé les enfants pour prendre l'enfant de sa voisine. Mais lorsque on se présente devant le roi Salomon, le roi dit, comme je n'étais pas là avec vous, je ne sais pas à qui appartient l'enfant, alors coupez cet enfant à deux, donnez une partie à maman Mimosa et l'autre partie à maman Gloire. Curieux, la fausse mère saute. Oui, c'est ça. Coupez l'enfant et partagez. Mais dites-moi, on va couper l'enfant et partager. Qu'est-ce que vous allez faire avec le morceau de l'enfant que vous allez amener? Et le roi seulement a dit, ah, toi tu es la fausse mère. Donnez l'enfant à l'autre mère. Parce que l'autre mère a dit, non, mon roi, ne le coupez pas. Donnez-le lui. Le syndrome de la fausse mère dans les églises, c'est quoi? Là où moi j'ai échoué, personne d'autre ne peut réussir. C'est ainsi que le discours est négatif. Toi, tu ne peux rien faire ici. Toi, tu ne peux rien faire parce que lui n'a rien fait. Non, frère. Par contre, quand il fait quelque chose de bien, réjouis-toi de ce qu'il a fait. Et ça va permettre à la gloire de l'Éternel de descendre au milieu de nous. Ça, c'était la cinquième vérité. J'ai inversé. Et je retourne à la quatrième vérité. Chaque membre qui est utile dans l'assemblée a droit d'être respecté. L'apôtre Paul dit, il parle des faibles, il parle de ceux qui ne sont pas honorables du verset 22 au verset 25, et il parle même de ceux qui sont décents, moins décents ou plus décents. Dans l'église, il y a plusieurs catégories de membres, frères. Nous avons des papas, nous avons des mamans, nous avons des gens qui ont beaucoup étudié, nous avons d'autres qui n'ont pas beaucoup étudié. Mais l'Esprit de Dieu nous oblige de nous respecter, nous tous, parce que dès qu'on déplace le sentiment ou le respect, on installe la division, frères et sœurs.
Amen.
Est-ce que nous pouvons nous respecter tout simplement? Amen. Respecter chaque personne à juste titre. Même si c'est une personne qui n'a pas étudié, cette personne est importante aux yeux de Dieu.
Amen.
Même si c'est une personne qui ne connaît pas beaucoup, cette personne est importante aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que ça me coûte de saluer mon frère avec joie? L'apôtre Paul dit à Timothée que frère, parle à des vieux papas comme à des vieux papas. Parle à des mamans comme à des mamans. Parle à des jeunes frères comme à des jeunes frères. Qu'est-ce que cela implique? Cela veut dire que quand nous venons à l'église, si nous voulons garder l'esprit d'unité, chacun doit veiller sur lui-même et sur son voisin. Chacun doit parler à son voisin, doit faire un effort. Parler à son voisin avec amour, l'honorer. Oh mon frère, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas qu'on se tient à la porte comme si on s'étendait des pièges. Dès que quelqu'un libère une parole, vous avez ajouté 3, 4, 5, 6 juste pour le couper. Non, ça va briser l'esprit d'unité au milieu des noms. Bref, je passais en revue avec vous à la lumière de ce texte, de cette métaphore de Paul, 4 vérités ou 5 vérités. La première vérité, je vous ai fait comprendre que dans l'Église de Dieu, nous avons plusieurs membres. La deuxième vérité est que les membres doivent être intimement liés les uns aux autres et coopérer pour que nous puissions garder le climat d'unité fraternelle au milieu de nous. La troisième vérité, je vous ai fait comprendre que chaque membre est utile. Et lorsque vous regardez votre frère à côté, dites-vous à l'esprit directement que frère, tu es utile pour ce ministère. Sans toi, ce ministère ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et le quatrième élément, je vous ai fait comprendre que chaque membre a droit d'être respecté, d'être honoré. Et le cinquième élément, les membres ont le devoir de prendre soin les uns des autres. Et prendre soin les uns des autres implique que si votre frère est malade, vous vous compatissez avec lui. S'il est dans la joie, vous vous réjouissez avec lui. S'il perd une capacité quelconque, vous vous pourvoyez. Et en faisant cela, nous allons garder l'esprit d'unité fraternelle et nous allons permettre à notre Dieu de répandre d'abondantes bénédictions sur nous. Nous allons alors nous tenir debout et nous allons dire un mot de prière à Dieu. Que Dieu fasse grâce, que nous puissions bien comprendre.